dos, one, two, tres, cuatro. ¡Oh!
Voici le cinquième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1968. Avec la pilule qui entre dans la vie des Français, Mireille Mathieu menacée par des marlous, Martin Luther King assassiné, les athlètes américains aux Jeux Olympiques qui lèvent leurs poings gantés de noir, et le bruit qui rend les gens des villes complètement dingues.
1968, on de la traconte sur Europe 1.
Au tout début de l'année 1968, la pilule contraceptive est enfin autorisée en France, grâce au travail d'un député qui s'appelle Lucien Neuwirth et qui hérite au passage du sobriquet de Lulu la pilule. Mais le sujet divise encore la France. Parfait exemple avec ses deux amis quadragénaires.
Il est certain que maintenant, avec la mentalité actuelle des gamines de 16 ans, la pilule est absolument une chose... merveilleuse.
Et c'est peut-être indispensable. Enfin, je trouve quand même que si les parents étaient un peu plus intelligents, ils essaieraient malgré tout de raisonner leurs enfants. Parce que je crois que nous, on a été d'une époque où on nous raisonnait et on s'est toujours raisonné. On s'est jamais ramené à 17 ans en disant à nos parents, j'ai des ennuis, faites quelque chose. Maintenant, c'est une question de caractère. Hein. C'est une question de caractère... de tempérament et de pudeur, parce que les filles n'ont plus aucune pudeur maintenant.
La pilule est en vente dans les pharmacies, mais le débat se poursuit sans fin. Certains continuent de trouver la pilule criminelle.
Par la nature, ça n'a pas du tout été prévu comme ça. Alors justement, c'est contre nature et c'est criminel d'employer la pilule, parce que ma maman est infirmière, elle est chez un pédiatre, et c'est inimaginable le nombre d'enfants qui naissent justement déformés par les conséquences de la pilule. Les enfants naissent souvent anormaux.
Je sais pas, moi, enfin, je veux pas les citer, mais il y a d'autres moyens anticonceptionnels qui n'ont absolument aucune conséquence. Il n'y a pas que la pilule, il y a d'autres moyens que les moyens chimiques.
Dans notre temps, nous, les pilules n'existaient pas, mais on a quand même limité les dégâts. On n'a pas fait les gosses à l'infini. Nous, on en a fait un, on a arrêté. On n'a pas besoin qu'on nous... Hein, on nous a pas donné pour ça de... ni conseil, ni rien du tout.
Davantage, mais enfin, je pense pas que sur le plan santé, ce soit très bon. Alors, si à 16 ans, elle commence à se droguer, à quel âge on va finir? À mon avis, hein, moi, personnellement, je vous avoue, personnellement, je veux pas d'enfant, mais je ne prendrai pas la pilule. Et ça fait 5 ans que j'en veux pas, et ça fait 5 ans que je n'en ai pas. Vivre le plus longtemps possible. Voilà, avec mes dents, mes cheveux. Voilà. Et pas de kilos superficiels, parce que beaucoup de femmes grossissent énormément. C'est-à-dire, c'est pas qu'elles grossissent, elles gonflent.
Durant l'été 1968, le pape Paul VI se mêle au débat. Il publie une lettre encyclique dans laquelle il condamne tous les moyens contraceptifs, y compris la pilule. Europe numéro 1 organise alors un débat entre les représentants de l'Église catholique et Lulu la pilule, qui se dit très inquiet de la prise de position du pape.
Une loi dans un État est faite pour l'ensemble de la communauté nationale. En France, la loi a été prise aussi bien pour les lecteurs de la Croix que pour ceux du Canard enchaîné, que pour ceux de Réforme ou pour ceux qui disent rien du tout. Actuellement, l'encyclique pose évidemment un problème à la communauté catholique, pose un problème de règles morales. Or, nous avons dit et répété, lorsque cette loi a été faite, que c'est dans le respect des convictions morales ou religieuses de chacun qu'elle était votée. C'est-à-dire que cette loi ouvre des possibilités à tous les couples de France, à chacun et à chacune, d'utiliser ou de ne pas utiliser les moyens que nous donne la science et la contraception, suivant leurs convictions religieuses ou leurs règles morales.
Face au député Lucien Neuwirth, un révérend Edmond Michelet. Pour lui, si on continue à prendre exemple sur les Suédois qui ont légalisé la pilule contraceptive en 1938, on se dirige vers la fin du monde.
Contrairement à ce que pense Neuwirth, un excès dans la matière va très loin. Je le disais la semaine dernière dans un important quotidien parisien du soir, un article sur les 1001 problèmes du sexe qui préoccupent les Suédoises en vacances. Je conseille la lecture de ce texte à ceux qui s'intéressent au problème de la pilule. Ils verront jusqu'où peuvent aller les déviations en la matière. Et si on nous offre comme perspective la vie familiale suédoise, j'ai beaucoup d'amis pour les Suédois, bien sûr, mais je préfère dire que nous retournons alors au rhum de la décadence. Bon, alors...
Ce débat se déroule en public dans un studio d'Europe numéro 1. Et dans le public, il y a un jeune homme de 25 ans accompagné de son épouse. Il est catholique.
Vous êtes là avec votre épouse et je vous pose tout brutalement la question. On a dit, cette encyclique, cette décision du pape est de nature à jeter le trouble dans une famille catholique. Vous êtes une famille catholique, vous êtes de jeunes époux catholiques. Est-ce que cela vous a troublé, perturbé ?
Bien, alors là je vous réponds. Premièrement, votre débat me paraît trop sérieux. Alors si vous voulez bien, on va respirer un peu. Parce que j'en ai assez de vous entendre depuis une heure, j'en peux plus.
D'accord, voilà la respiration.
Je boue depuis une heure, c'est incroyable.
D'accord.
Allez-y, allez-y. De tout ce que vous avez dit, je conclus une chose. Dans le fond, le pape n'a pas dit grand-chose. Il a dit quelque chose de très important. Je suis de votre avis, mais je vous en supplie, dédramatisez l'encyclique. Il y a des choses aussi graves, si ce n'est plus grave, dans le monde actuel.
Ah oui, mais on peut consacrer des émissions à d'autres problèmes. Ce soir, on a décidé d'en faire une sur ce sujet. Je vous accorde bien volontiers qu'il y a bien d'autres choses, mais on ne peut pas tout traiter à la fois. Donc ce soir, c'est de ce problème dont on parle.
Je ne veux pas être démagogue, je veux être concret. Allez-y. Je suis aussi inquiet que la plupart des couples. Le père Martelet a bien dit, pas de pilule. Bon, alors, la question que se posent tous vos auditeurs, que se pose tout le monde, c'est est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas ?
En vérité, ce jeune chrétien s'octroie la possibilité de ne pas suivre les recommandations du pape.
Alors là, c'est là que j'appelle à l'homme et que je dis, bon, moi je suis chrétien, j'y crois, hein, mais je voudrais que les hommes aient une station verticale. Devant une encyclique, on ne se met pas à plat ventre, vous comprenez ? On a une attitude d'homme, je prends mes responsabilités, je suis chrétien, je prends mes responsabilités. Je la lis et je dis, voilà comment je la comprends. Et c'est aussi valable au niveau d'un chrétien qu'au niveau d'une famille, puisque je représente ma famille et que ma femme est à ma gauche en ce moment à côté de moi, qu'au niveau de l'État. Debout, je vous en supplie, une station debout pour l'homme. Vous comprenez, jusqu'ici, l'Église se prononce, tout le monde s'aplatit. Ou alors la révolte sourde, gronde, etc. On s'en tient par une dialectique invraisemblable. Hein, on discute, on pinaille à tour de bras, on n'en sort pas. Alors vous allez me poser la question, est-ce que ma femme prend la pilule ou est-ce qu'elle ne la prend pas ?
Je la pose pas, mais puisque vous la posez...
Mais moi, je vous réponds. Si je vous dis que ma femme prend la pilule, hein, vous allez dire que je suis en train de justifier le fait que ma femme prend la pilule. Si je vous réponds que ma femme ne prend pas la pilule, vous allez me dire que j'ai une attitude en contradiction avec ce que je suis en train de vous dire. Et c'est à ça que je vous réponds. Le fait que ma femme prenne la pilule ou ne la prenne pas, ça n'a aucune valeur en soi. Je ne veux pas servir d'exemple. Comprenez ? C'est là que je dirais aux gens, ne me demandez pas si ma femme la prend ou la prend pas. Prenez vos responsabilités, moi je prends les miennes.
Ce jeune homme, excellent orateur, vous l'avez entendu, s'appelle Bruno Lagrange. Pendant 20 ans, il présentera l'émission Le Jour du Seigneur à la télé. Il écrira aussi plusieurs ouvrages sur la Bible, sur la vie des saints et sur l'histoire des papes.
Dans une taverne du vieux Londres, où se taverne dans mon cœur. Tout
C'était Le Temps des Fleurs en 1968 par Dalida.
1968, on de la raconte sur Europe 1.
En janvier 1968, Mireille Mathieu est la révélation de la chanson française. Elle a 21 ans et son 45 tours enregistrés à l'Olympia, La Dernière Valse, s'écoule à 450 000 exemplaires.
Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière valse. Mon cœur n'était plus sans âme.
Ce succès porte la française jusqu'en Angleterre, où elle se produit devant la reine Elisabeth. Mireille Mathieu devient une vedette, avec les inconvénients du statut. Fin janvier 68, son père vient raconter à Europe numéro 1 que la petite Mireille est menacée, et lui aussi.
La première fois, ils m'ont demandé, ils m'ont tendu un piège, en disant que venez vite, un grave accident est arrivé à votre fille. Alors je suis arrivé, n'est-ce pas, tout de suite. Et puis ils m'ont dit, gardez tout votre sang-froid. Pensez-vous dans des moments comme ça, hein. Je ne savais pas quoi dire. Et puis ils m'ont dit, est-ce que vous aimez vos enfants? J'ai dit, oui, j'aime mes enfants. On a eu une de réponse. Pour quelle raison? On m'appelle pour un grave accident, soi-disant que ma fille était gravement atteinte d'accident automobile. Et puis alors ils m'ont dit, mais puisque vous aimez vos enfants, d'accord. Eh bien, il faut que vous nous déposiez 15 millions, qu'on vous donnera l'indication voulue.
Et qu'avez-vous répondu?
Alors, j'ai répondu que j'ai dit, mais dites ça que vous dites, c'est malpropre, c'est, je veux dire, au point de vue, j'ai dit, mais qui vous êtes? Alors, sûrement, pensez-vous, ils n'allaient pas me dire le nom, tout ça. J'ai dit, mais des choses comme ça, c'est honteux, c'est du chantage. Mais il a dit, cette dame, il n'y a pas de chantage voulu. Il a dit, si vous tenez à vos enfants et si c'est de nous déposer 15 millions que vous donnera l'indication voulue, l'adresse où il faudra déposer. Et alors il me dit, même si vous ébruitez la police, ben, on vous fera du mal à vos enfants.
Est-ce qu'on vous a désigné les enfants menacés?
Mireille m'a dit qu'il me tuerait Mireille.
Roger Mathieu, le papa de Mireille Mathieu, n'a pas la moindre idée des auteurs de ces menaces. Mais il les prend très au sérieux.
Et Mireille, qu'a-t-elle reçu et quel genre de menace a-t-elle reçu?
Eh bien à peu près comme moi. Toujours la femme. En général, c'est la femme qui agit.
Mais ça s'est passé au cours de ces derniers jours.
Dernier jour, oui. 3h15, mercredi. Et je n'ai reçu deux dans la même journée.
Auparavant, vous n'aviez jamais reçu de menaces de ce genre?
Si, j'en avais reçu au début, mais vous savez ce que c'est. Je croyais un peu à la rivalité de certaines choses dans l'entreprisario. Vous savez ce que c'est dans ce métier-là. Et on se mange un peu, hein. Mais j'ai pas porté importance. Mais cette fois, l'affaire est sérieuse.
Deux semaines plus tard, Mireille Mathieu est à Grenoble, où elle se produit dans l'émission de télévision très populaire, Télé Dimanche. Elle interprète un nouveau titre, Gardez l'accent.
Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est l'ail du potager, l'huile de l'olivier, le raisin de la treille. C'est le mi-cocoulier où jouent les écoliers. Qu'une cigale égale vieille.
Après une ovation, Roger Lanzac, le présentateur de Télé Dimanche, interviewe la jeune vedette en ironisant sur son accent.
Comment vas-tu, ma grande ?
Ça va très bien.
Ça va très bien, ça a l'air d'ailleurs. Eh ? Dis donc, tu vois que je prends l'accent parce que moi je suis aussi un peu méridional. Je suis méridional d'adoption parce que j'ai habité 20 ans la Provence. Alors, quand je te dis, dans le titre de ta chanson, j'ai gardé l'accent, est-ce que je fais une faute ou je fais pas de faute ?
C'est pas comme ça qu'il faut dire.
Ah, c'est pas comme ça, ouais, je vais prendre ma petite leçon. Eh.
Il faut dire oui, j'ai gardé l'accent.
Ah, on dit pas l'accent ?
Non, non, non.
On dit l'accent. Bon.
Le lendemain, Mireille Mathieu quitte Grenoble. Et elle est victime d'un grave accident de la route. Après plusieurs tonneaux, sa voiture finit dans le décor.
C'est dans le virage de l'Emballan, dans l'Isère, qu'hier soir à 19h, la voiture de Mireille Mathieu, une DS21, dérapée, quittait la route et après 5 tonneaux, s'immobilisait dans un champ. La jeune chanteuse, qui a été transportée à son hôtel à Lyon, a été plus commotionnée que blessée. Son impresario Johnny Stark est également blessé, tandis que son chauffeur, sa secrétaire et son photographe étaient hospitalisés. Vraisemblablement, la jeune vedette ne pourra reprendre sa tournée avant un mois.
Et dans ces années-là, même à l'hôpital, les chanteurs donnent des interviews. Mireille Mathieu confirme qu'elle ne souffre que de légers traumatismes, mais elle dit qu'elle est très fatiguée, très éprouvée par l'accident.
Mireille, tous vos amis attendent de vos nouvelles. Est-ce que vous souffrez beaucoup ?
J'ai beaucoup mal à la colonne vertébrale et aux côtes, là.
Est-ce que vous vous rappelez de l'accident ?
Je me rappelle plus de rien, j'ai vu qu'on a quitté la route et on a tourné, voilà.
Et vous souffrez beaucoup ?
Oui, ça fait beaucoup mal.
Est-ce que vous allez vous reposer à Avignon ?
Non, à Paris.
Alors tous vos amis vous attendent, qu'est-ce que vous leur dites ?
Je leur dis que je regarde pour eux parce que je devais chanter, je devais faire des galas et je peux pas et je leur dis à bientôt.
Et tous nos voeux de prompt rétablissement.
Mireille Mathieu quitte l'hôpital en fauteuil roulant. Elle a des vertèbres brisées. Évidemment, vu les menaces reçues par la vedette, une question se pose. La voiture de Mireille a-t-elle été sabotée ? Rien ne permettra de le confirmer. Dans un tout autre registre, en 1968, un chanteur de 34 ans fait un tabac à l'Olympia, bien qu'il soit censuré à la télévision. Il s'appelle Pierre Perret.
Tonton Cristobal est revenu. Des faisceaux, des lingots, il a neuf yeux cousus. La famille hypocrite crie, vive le parfum. Tonton Cristobal est revenu. À nous, ses petits neveux, on nous disait, il s'est taillé. En Amérique du Sud, sans un pélo, tout débraillé. Mes enfants, que la Vierge nous patafiole. Plutôt que de revoir un jour sa fiole. À Buenos Aires, il faisait la traite d'on ne sait quel produit. Il est revenu fortune faite, plein de cadeaux jolis. Une poupée qui fait pipi, qui se mouche. Et qui a des seins qui se gonflent avec la bouche. Tonton Cristobal est revenu.
Parmi les chansons présentées en 68 par Pierre Perret à l'Olympia, il y a ce succès. Cuisse de mouche.
Sa petite paire de noix gonfle un petit poil sa mini-jupe. Elle a des grands bêtes comme un fil à couper le roquefort. Ses petits yeux au plat sous son chemisier me préoccupent. Autant que le joli sourire qui lui sert de passeport. C'est pour ça qu'on l'aime dans notre HLM. Chez le Boriri ou dans le bistrot de la mère Tazzi. On l'appelle cuisse de mouche, fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Elle chante tout le temps sans finir sa chanson. C'est la faute bien sûr à ses tout petits poumons. Elle allait aux prises uniques acheter ses panzani. Moi j'attendais que la vendeuse me donne mon riz précuit. Elle me dit Dieu me chatouille, vous êtes le beau Pierrot. Et parole de cuisse de mouche, c'est vous que j'ai dans la peau. C'est pour ça qu'on l'aime dans notre HLM, chez le Boriri, l'histoire de mère Tazzi. On l'appelle cuisse de mouche, fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Mais je peux vous dire à vous tous en passant que de tous les cœurs, c'est le tien le plus grand. Mais je peux vous dire à vous tous en passant que de tous les cœurs, c'est le tien le plus grand. Oui.
C'était Pierre Perret avec son tube de 1968, Cuisse de mouche.
1968, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Le 4 avril 1968, à Memphis, aux États-Unis, le révérend Martin Luther King, 39 ans, est tué d'une balle dans le cou alors qu'il est au balcon de sa chambre d'hôtel. 4 ans plus tôt, Luther King a reçu le prix Nobel de la paix pour son combat contre la ségrégation raciale. Son assassinat embrase la communauté noire américaine.
Ici New York. L'assassinat de Martin Luther King a déclenché les premières violences de l'été brûlant de 1968. À Memphis, où le pasteur King a été abattu d'une balle au cou par un blanc qui a pris la fuite, le maire a imposé aussitôt le couvre-feu et 4000 gardes nationaux armés de fusils et de mitraillettes ceinturent les quartiers noirs. Il y a déjà eu quelques incidents, mais sans gravité. À Harlem, le quartier noir de New York, la foule a d'abord été frappée de stupeur, puis, peu à peu, la colère a pris le dessus. Le maire de New York, M. John Lindsay, est venu seul, obligeant la police qu'il protégeait à se tenir à l'écart, marcher à travers Harlem, serrer des mains, se mêler au groupe des Noirs pour les calmer, les rassurer et leur exprimer sa sympathie. M. Lindsay a ordonné que les drapeaux de New York soient mis en berne. Néanmoins, on signale quelques cas de pillage, quelques boutiques incendiées.
Très vite, les émeutiers gagnent le quartier de Harlem, à New York. Pour Europe numéro 1, Jacques Tellier est sur place.
Je suis au coin de la 8e avenue et de la 135e rue, la section de Harlem qui a été le plus touchée. Derrière moi, sur le trottoir d'où je téléphone, un supermarché entièrement brûlé, calciné, pillé. Il ne reste rien qu'un toit effondré, des gravats calcinés. Également détruit, totalement incendié sur le trottoir d'en face, un immeuble d'habitation de 4 étages. La plupart des émeutiers sont rentrés chez eux, certains cependant vadrouillent encore dans les rues, les bras chargés de bouteilles, de boîtes de conserve, bref, de leur butin, ils quittent peu à peu la scène du drame. Sur les trottoirs, des enfants s'amusent, s'interpellent, se lancent des boîtes de conserve et des bouteilles à coups de pied, inconscients du désastre qui vient de s'abattre sur leur propre quartier. À côté de moi, une noire assez âgée, dans la soixantaine, contemple les squelettes de maisons, immobiles, paralysées, étouffées de sanglots. Des larmes coulent sur ses grosses joues.
À Washington aussi, ça bouge. Les noirs représentent 60% de la population de la capitale. La ville est en état d'alerte, car la nuit précédente a aussi été très violente.
Il y a de magasins de télévision et boutiques où l'on vend du whisky. La police et les pompiers, casqués, sont déjà là, prêts à intervenir. Sentant la tension monter, craignant le pire, les autorités ont mis les 2000 hommes de la garde nationale en état d'alerte. Un dispositif de sécurité spécial est prévu depuis l'été dernier et des unités spécialement entraînées pour la répression des émeutes et des combats de rue sont casernées dans les bases militaires qui entourent la capitale. C'est que Washington, siège du gouvernement fédéral, est une ville particulièrement vulnérable. La nuit, fonctionnaires et employés des ministères et autres administrations s'en vont coucher en banlieue dans le Maryland et en Virginie. Et à part certains quartiers périphériques, la ville est pratiquement livrée aux Noirs. Si une véritable émeute se déclenchait, la police municipale à elle seule ne pourrait pas arrêter un assaut sur la Maison-Blanche, où le président Johnson travaille ce soir à préparer le message qu'il va adresser lundi soir au Congrès pour essayer d'empêcher l'été d'exploser.
Les États-Unis sont proches de la guerre civile. Dans certaines grandes villes comme New York, les Blancs sont priés de ne pas se rendre dans les quartiers noirs, comme le raconte ce Français qui vit là-bas.
Avec la situation actuelle, il est difficile de pénétrer dans un quartier noir, étant donné que c'est gardé par la garde nationale et les soldats font dévier les routes vers les quartiers blancs.
Mais alors c'est plus qu'une garde, c'est une espèce de véritable mise en état d'isolation, c'est-à-dire que ceux de ce quartier ne peuvent pas sortir et ceux de l'extérieur ne peuvent pas entrer.
Exactement.
C'est une véritable neutralisation de ces quartiers.
Oui.
Et les gens vivent enfermés par une autorité énergique.
Exactement.
Après 5 jours d'émeute, la tension retombe. À Memphis, 25 000 personnes rendent hommage à Martin Luther King.
We
à Memphis que nous nous trouvons à quelques centaines de mètres de l'endroit où le révérend Martin Luther King a été assassiné. À Memphis, où un chauffeur de taxi blanc m'a dit tout à l'heure, c'est dommage qu'on l'ait tué. Oui, c'est très dommage, car l'homme qui l'a tué m'a empêché de le faire moi-même. Nous sommes en ce moment sur la place de l'Hôtel de Ville, sur la place, sur cette place de l'Hôtel de Ville, où vous entendez en ce moment la foule, une foule extrêmement dense, chanter un Negro Spiritual. En face de moi, l'estrade, une estrade surélevée où se trouvent les officiels, où se trouve la veuve du révérend Martin Luther King et où se trouve également Harry Belafonte qui, avec la foule, tape des mains et chante.
L'assassin du révérend Martin Luther King sera finalement arrêté 2 mois plus tard à Londres. James Earl Ray sera condamné à 99 ans de prison et il mourra en détention. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Understanding sometime, strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, I want that sun. Cloud with too much rain, we're trapped in a world that's troubled with pain, but as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. C'était Elvis Presley. En 1968, hommage personnel du chanteur à Martin Luther King, qui a transformé ici son légendaire I Have a Dream en If I Can Dream.
1968, Ondelat raconte sur Europe 1.
En octobre 1968, ont lieu les Jeux Olympiques d'été de Mexico. Et à la veille de l'ouverture, il se murmure que les athlètes noirs américains vont mener des actions pour alerter le monde sur la ségrégation raciale aux États-Unis.
Les noirs américains ont, paraît-il, l'intention de défiler dans une tenue différente de celle de leurs équipiers blancs. Ils doivent porter notamment des chaussures noires. D'ailleurs, ces champions noirs américains, qui vont truster les médailles d'or, ont fait jusqu'ici un peu bande à part dans l'équipe américaine. On les a vus souvent en grande conversation animée avec leurs frères africains. Ils tenaient de véritables meetings au sein même du village olympique. On dit même que le recordman du monde du 200 mètres, le noir américain John Carlos, aurait pris contact avec le milieu étudiant mexicain pour se faire, je dis bien kidnapper, avec son accord pour porter préjudice au déroulement des Jeux. Mais ce n'est probablement là qu'une rumeur, il semble en effet que les étudiants mexicains aient renoncé à toute action, pour le moment du moins.
Le 12 octobre 1968, la cérémonie d'ouverture se déroule finalement sans incident.
La cérémonie d'ouverture s'est déroulée selon la tradition. Défilé des athlètes, débauche de couleurs, assaut d'élégance, dans ce domaine les Allemandes de l'Ouest et les Françaises ont été les plus remarquées, lâcher de ballons multicolores et de pigeons, bref, le cérémonial habituel dans ce genre de manifestation. On a juste remarqué que la délégation tchécoslovaque a été la plus applaudie, alors que les soviétiques ont été sifflés par certains. On a noté que les Noirs américains n'avaient pas mis leur menace à exécution de défiler dans une tenue distincte de leurs équipiers blancs.
Le 16 octobre 68, l'athlète noir américain Tommy Smith remporte le 200 mètres et son compatriote John Carlos termine troisième. Lors de la remise des médailles, les deux Noirs américains décident de passer à l'action. Quand résonne l'hymne américain, ils lèvent un poing ganté de noir et ils baissent la tête. Trois jours plus tard, Tommy Smith est au micro d'Europe numéro 1.
Ce qui s'est passé ce mercredi, est-ce que c'était une manifestation du pouvoir noir ?
Oui, on peut dire que c'était une manifestation du pouvoir noir. Il est tout à fait évident que le pouvoir noir domine l'athlétisme aujourd'hui. Il est évident que les athlètes noirs sont les plus puissants en athlétisme. Je dirais que ce que nous avons fait sur le podium des médailles, c'était pour faire savoir aux Noirs du monde entier que quand nous courons, c'est eux que nous représentons.
On vous a accusé d'introduire la politique dans le sport. Est-ce que vous acceptez cette accusation ?
Eh bien, je ne dirais qu'une chose. Je ne crois pas que l'on puisse mettre de côté sa vie sociale quand on fait un boulot comme l'athlétisme. On ne peut pas séparer l'athlétisme de la vie extérieure. Il n'y a pas moyen de mettre une barrière entre les deux.
Les deux athlètes qui ont levé le poing sont exclus de la délégation américaine. En réponse, les athlètes noirs américains menacent de quitter les Jeux. Mais finalement, ils choisissent de rester et de gagner. Lee Evans, Larry James et Ron Freeman trustent les trois premières places du 400 mètres. Et lors de la remise de leur médaille, à leur tour, ils lèvent le poing coiffé d'un béret des Black Panthers, le mouvement révolutionnaire de la cause noire aux États-Unis.
Après la cérémonie protocolaire, les trois médaillés du 400 mètres ont tenu une conférence de presse devant les journalistes du monde entier. Question. Pourquoi portiez-vous un béret noir ? Réponse. Parce qu'il pleuvait. Question. Pourquoi avez-vous salué le poing fermé ? Réponse. Chacun salue à sa manière, c'est la nôtre. Question. Avez-vous subi des pressions du comité olympique ? Réponse. No comment. Sans commentaire. Question. Êtes-vous solidaire de Smith et de Carlos ? Réponse, no comment. Question, dédiez-vous votre victoire aux blancs comme aux noirs ? Réponse, nous la dédions aux noirs de tous les pays, nous la dédions aussi aux blancs, car nous comptons des amis blancs en Europe.
À part ça, les Jeux Olympiques de Mexico consacrent une athlète française, Colette Besson, 22 ans, qui rafle le titre de championne olympique du 400 mètres.
Si vous regardez cette médaille, je n'y crois pas encore. C'est magnifique. Je suis partie pas trop vite, ni trop doucement. En 300 mètres, j'étais très très bien, en troisième position. Et puis, j'ai accéléré. Et tous les conseils de mon entraîneur me revenaient. Baisse tes bras, monte tes genoux, allonge ta foulée. Et puis, j'en ai doublé une, j'en ai doublé deux. Et puis, c'était l'arrivée. Et puis, j'ai vu le fil aussi. Là, je ne l'ai pas hésité.
À quoi on pense dans une dernière ligne droite ? Au moment où on voit le fil et on sent qu'on va être première.
On pense à manger l'adversaire.
Les Français brillent aussi dans une discipline cycliste qui n'existe plus aujourd'hui, le tandem. Pierre Trentin et Daniel Morellon décrochent l'or olympique.
Nous nous connaissons déjà depuis 5 ans et je peux dire que c'est un ami, un grand ami même. Parce que nous avons fait ensemble, nous l'avons déjà fait à Francfort et vraiment, ça comptera dans notre vie, je crois.
Sur le tandem, c'est vous qui pilotez.
Oui.
Alors, c'est vous le patron ?
Le patron, non. On est tous les deux le patron. Lui, quand l'adversaire est derrière, nous renseigne. Et quand il est devant, c'est à moi de faire la course.
C'est un Parisien, Pierre Trentin. Vous êtes un Bressan.
Oui.
Les caractères, ça semble bien ?
Eh bien, je peux dire que tout de suite, nous avons sympathisé. Et nous avons été souvent ensemble dès les premiers stages. Nous avons été, presque ainsi dire, toujours attirés l'un vers l'autre. Quoi.
Et ce qui est amusant, c'est que le cycliste médaillé d'or Pierre Trentin n'est pas du tout un sportif professionnel. Dans la vie, il est maroquinier pour dames, comme il le raconte quelques jours plus tard à Robert Chapat sur Europe numéro 1.
Brigitte Bardot, on le sait, est votre cliente, vous êtes son maroquinier favori. Alors allez-vous abandonner la bicyclette et vous consacrer à toute la fabrication des sacs de Brigitte Bardot ou continuer puis essayer de mener les deux de pair?
Vous savez, avec deux titres olympiques, on ne peut pas arrêter la bicyclette comme ça, mais comme je travaille avec mon père, il m'a laissé facilité pour m'entraîner, je pense que c'est la meilleure solution, faire du sport et travailler, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux.
Bon, je crois que vous allez faire une découverte maintenant, c'est qu'être champion olympique, ce n'est pas une situation de tourpeau. On vous attend un peu partout, des réceptions, vous y avez droit, vous les avez méritées, mais il est possible que dans 8 jours, vous pensiez à prendre des vacances, hein.
Vous savez, depuis les résultats là, à Mexico, sans arrêt, nous sommes couchés à 1h, 2h du matin, il y avait des réceptions, les journalistes, des interviews, mais on n'arrête pas. Alors, je crois qu'une huitaine de jours de vacances, après tout ça, ça ferait pas de mal, quoi.
Oui, ben, ça vous apprendra, hein, vouloir être double champion olympique. Allez, merci, messieurs.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1968.
Extrait de la Maritza de Sylvie Vartan, sorti en 1968. C'est une chanson qui a été écrite par Pierre Delanoë et qui évoque le pays natal de Sylvie Vartan, la Bulgarie. Après la pub, les citadins français en guerre contre le bruit.
L'année 1968.
Ce qu'il y a de bien avec Vélo Solex.
On est toujours à l'heure sans trop se fatiguer.
Ce qu'il y a de bien avec Solex.
Ce grand champion de l'économie n'est pas le deux ou le n'importe qui. C'est ce qu'il y a de bien avec Solex. C'est ce qu'il y a de bien avec Solex.
Silencieux, robuste, économique, essayez le Vélo Solex 3800 à bandeau rouge. Il est encore plus musclé.
1968. On de la traconte sur Europe 1.
En 1968, la préfecture de Paris tente de lutter contre un fléau moderne, le bruit. En novembre 68, la capitale inaugure la quinzaine contre le bruit.
Est-ce que le bruit de Paris vous incommode?
Oh oui, énormément. Bon, oh oui, moi je m'arrue, alors qu'est-ce qu'on prend là aussi? On sait bien que les travaux doivent être faits.
Moi le bruit, je m'en fous. Les bombardements pendant la guerre ne m'ont pas empêché de dormir. C'est pas maintenant que ça peut me gêner.
Oh, moi, ça me gêne pas, je suis sourd. Ça me gêne pas beaucoup. Mais il y en a du bruit, hein.
Je trouve que la circulation dans Paris est vraiment trop bruyante.
Nous travaillons par téléphone. C'est impossible, on n'entend rien. Je dis pas qu'il me dérange pas. Je dis qu'il en faut pas un peu, enfin. Il faut vivre comme dans le bruit. Mais le trop, c'est quand même excessif. C'est les nerfs qui prennent, je crois. Hein.
Ah oui, mon mari fait une dépression nerveuse en ce moment, c'est pas marrant.
À cause du bruit?
À cause du bruit, à cause de tout. Hein.
Et pour vous-même?
Ah, moi, je suis bien énervée chez moi, il y en a marre.
La journée, on travaille ici, il y a du bruit. Après, on rentre chez soi. Moi, j'habite juste au-dessus d'un restaurant dansé. Ça continue, il y a une circulation épouvantable. Donc, c'est dans la journée, c'est le soir, c'est le matin de bonne heure. C'est toujours, enfin, il faudrait trouver une solution, il me semble. On est complètement fatigué. On attend qu'une chose, c'est partir à la campagne. Partir, ça devient une obsession, c'est un besoin.
Pour lutter contre le bruit, le préfet de Paris, Maurice Grimaud, a une idée. Il veut s'en prendre aux chantiers.
Il serait nécessaire que sur les chantiers de cette importance, il y ait un spécialiste du bruit. C'est-à-dire de même qu'il y a un ingénieur qui veille à la bonne consommation du béton ou à l'économie à faire sur tel ou tel produit, il y aurait un responsable du bruit qui aurait présent à l'esprit constamment la nécessité de ne pas gêner le voisinage lorsqu'on est obligé de faire un chantier la nuit. Je pense que c'est une chose qui pourrait être faite systématiquement.
Je préfère vous le dire tout de suite, tout cela ne se fera jamais. Et durant cette quinzaine contre le bruit, Europe numéro 1 demande à ses auditeurs quel est le bruit qui les incommode le plus.
Une montagne de courriers, des lettres tous azimuts de partout, sur les cachets des PTT, Rennes, Lyon, Lille, Clermont-Ferrand, Marseille, Paris bien sûr, et sa banlieue. Le bruit numéro un selon vous, votre ennemi numéro un, est celui des deux roues, motocyclettes, scooters, motos, etc. De partout, on s'en plaint de ce bruit qui réveille, qui rend nerveux et qui rend fou. Dans le sonomètre, l'appareil de mesure des spécialistes du bruit, les accélérations intempestives des deux roues donnent ceci.
Et puis, Europe numéro 1 sonde un expert. Et il est catégorique. Le bruit des vélomoteurs est bien au-dessus des niveaux autorisés.
Monsieur Décibel, le technicien de la préfecture, qui m'accompagne partout, rend son verdict.
Il fait 86 décibels A et la tolérance est de 80, donc il dépasse de 6 décibels.
Donc ça fait beaucoup et c'est très fatigant finalement.
C'est très fatigant et bien entendu, surtout c'est embêtant.
Et surtout quand ça résonne entre les maisons ici dans les rues étroites.
Et oui.
Ce reportage, je l'ai réalisé dans un quartier résidentiel, là où les immeubles abritent beaucoup de retraités, d'employés et d'ouvriers qui travaillent à Paris. Depuis quelque temps, le quartier de Bécon-les-Bruyères à Courbevoie est le siège de rodéos nocturnes à motocyclette. Les habitants sont effarés, furieux et ne savent plus que faire.
Mais les rodéos n'ont pas lieu qu'à Courbevoie. Il y en a aussi, par exemple, à Bécon-les-Bruyères, au nord-ouest de Paris.
Tous ces moteurs bruyants, moi, me fatiguent énormément et on ne peut pas se concentrer. Même en admettant qu'on n'ait pas des choses extraordinaires à faire, on n'est tout de même pas, il y a des moments où on est calme et tranquille et tout d'un coup, il passe un moteur bruyant, on sursaute malgré soi, n'est-ce pas ? C'est même inconscient.
Il y en a beaucoup dans ce quartier de Bécon ?
Ah oui, il y en a beaucoup. Il y a une bande de petits jeunes gens qui s'amusent avec leur moto comme... Ça arrive très souvent, hein. Alors ils font le tour du pâté de maison, et puis ils font en faisant le plus de bruit possible naturellement. J'ai d'ailleurs une amie qui habite sur la gare, qui a appelé plusieurs fois police secours parce que son mari a besoin de se concentrer en travaillant.
Et ça se traduit par quoi, pour vous précisément, ces bruits de vélomoteur ?
Ça me rend littéralement nerveuse, très nerveuse, et ça me fatigue considérablement. Évidemment, j'ai plus 20 ans, c'est une affaire entendue, mais ça me fatigue vraiment énormément. C'est pourtant pas mon habitude de dénoncer les gens, mais je crois que j'écrirai, je sais pas, n'importe qui. Tellement c'est affolant.
We can climb so high, I never wanna die. C'était Born to be Wild du groupe canadien Steppenwolf, sorti en 1968 et qui, l'année suivante, illustrera le film Easy Rider, ode aux chevauchées bruyantes et motorisées. C'est donc à moto que nous quittons l'année 68. Merci à mes bikers tatoués, Guillaume Maury, Julien Pichenet et à Guillaume Vassot à la réalisation. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
Retrouvez On de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.